Et la question que nous vous posions hier pour aujourd'hui était la suivante. Pensez-vous que, malgré la guerre, un accord sur le nucléaire iranien est encore possible? Alors, les auditeurs ont tranché la question parce que c'est non. À une très large majorité, 82% d'entre vous pensent que non sur Insta, 87% pensent que non sur Facebook, et enfin, c'est l'unanimité absolue sur X, 100% d'entre vous pensent que, un accord sur le nucléaire iranien n'est plus possible. On va voir si vous avez raison ou pas, en demandant son avis à notre invité. Lise, vous en parlez avec David Rigoulet-Rose, le chercheur spécialiste du Moyen-Orient.
David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Donc, vous l'avez entendu, nos auditeurs ne pensent pas qu'un accord sur le nucléaire iranien soit encore possible. Quel est votre avis là-dessus? Et s'il est possible, est-ce qu'il est souhaitable, David Rigoulet-Rose?
En tout cas, il apparaît difficilement envisageable aujourd'hui, compte tenu de l'évolution, de la dynamique militaire des événements. La porte a été maintenue ouverte formellement par le président Donald Trump, qui enjoint justement les autorités iraniennes à reprendre les négociations là où elles étaient restées et à finaliser un accord. Mais on sent bien que personne n'y croit vraiment, dans la mesure où de toute façon Benjamin Netanyahou est décidé à aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est neutraliser le plus possible les infrastructures nucléaires, et notamment la principale, à savoir Fordo. Ça peut difficilement se faire sans l'aide américaine. Donc il y a de la part du positionnement du président américain, on va dire un effet d'annonce, mais simultanément le même président américain hausse de manière très importante le dispositif militaire en détournant le Nimitz d'Asie, de mer de Chine vers le Golfe, en annonçant l'envoi de nombreux avions, y compris des grands ravitailleurs comme le KC-135 ou le KC-Pegasus, avec la mobilisation potentielle des B-2 américains et des B-52. Donc aujourd'hui, on voit mal comment les Iraniens seraient en mesure, même si ce serait probablement leur intérêt immédiat, mais de relancer des négociations.
Alors, c'est peut-être pas leur intérêt, mais est-ce qu'ils ont vraiment d'autres choix en ce moment? Ils sont pas en train de gagner cette guerre, David Rigoulet-Rose?
Ah, clairement pas. D'ailleurs, le président Donald Trump, lors de son passage au G7, a eu la formule selon laquelle l'Iran allait perdre la guerre, ne pouvait pas la gagner. Ce qui paraît évident. Pour autant, la question, elle va être de savoir jusqu'à quel point le régime iranien est prêt à se battre, parce qu'en réalité, il joue sa survie. Donc, en réalité, c'est de savoir si il considère qu'il n'a pas d'autre option que la réplique militaire, ou si il peut proposer effectivement par des médiateurs comme le Qatar par exemple de relancer des négociations. Mais je doute que du point de vue israélien cette proposition éventuelle soit validée, dans la mesure où aujourd'hui on a atteint un point de non-retour. S'il y avait dû avoir des négociations, c'était avant le sixième cycle qui était prévu à Mascate et qui était prévu juste après le début des frappes israéliennes.
Alors justement, David Rigoulet-Rose, ces négociations, est-ce qu'elles étaient du point de vue de l'Europe notamment, elles semblaient souhaitables, mais l'AIEA a tout de même donné quelques bémols ces derniers temps sur le fait que l'Iran cachait son enrichissement d'uranium. Et donc, quand on sait cela, pourquoi on continue de négocier avec les Iraniens?
C'est le problème de l'option militaire, parce que ça ouvre des perspectives. C'est une équation à plusieurs inconnues, dans la mesure où ça peut être un coup fatal pour le régime, un effondrement brutal avec des attendus très très incertains. Donc une option militaire dans l'absolu est jamais forcément la meilleure solution. Parfois, elle s'impose. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était effectivement, y compris d'ailleurs du président américain, c'était de privilégier l'option diplomatique avec une pression extrêmement forte, qui obligerait les Iraniens à céder, ce qu'ils n'ont pas voulu faire, notamment sur leur ligne rouge qui a été maintenue, à savoir le maintien, la permanence du droit à l'enrichissement en Iran, ce qui était inacceptable pour les Israéliens. Dans un premier temps, d'ailleurs, il y a eu un certain flottement du côté américain à la décharge des Iraniens, si on peut dire, puisque les Iraniens ont pensé que dans les premières déclarations de Steve Witkoff, il y avait possiblement le droit qui serait maintenu d'enrichir en Iran, et puis par la suite, la ligne rouge américaine s'est imposée, à savoir c'était le démantèlement complet de cette filière. Donc à partir de ce moment-là, les dés étaient jetés, et c'est ce qui explique que l'option militaire se soit finalement imposée.
Alors, Oman et le Qatar tentent tout de même de jouer de nouveau les médiateurs entre l'Iran et les États-Unis. On dit même que Téhéran a transmis éventuellement des messages à Israël via ses intermédiaires. Est-ce que vous y croyez, David Rigoulet-Rose, à une rencontre bientôt entre les Américains et les Iraniens via cette médiation Oman ou Qatari?
Alors, la médiation omanaise, elle n'est pas nouvelle, hein, puisque les Omanais avaient servi Mascat avait servi de hub, justement, à la demi-douzaine de cycles de négociations justement qui avaient précédé l'opération militaire du Qatar. C'est parce que le Qatar est directement en face de l'Iran et qui partage d'ailleurs le plus grand champ gazier du monde, qui vient d'être frappé dans sa partie iranienne par Israël justement. Donc il y a des velléités, mais de toute façon aujourd'hui, ça paraît peu probable que ça puisse déboucher sur quelque chose de très concret, dans la mesure aussi où le président Donald Trump, qui vient de réunir son cabinet de sécurité nationale et de discuter avec ses stratèges militaires dans la Situation Room de la Maison Blanche, a demandé explicitement au régime iranien une capitulation, ce qui est une humiliation suprême par rapport à la fierté nationale iranienne. Donc là, on arrive sans doute à l'épilogue du conflit, avec tous les attendus incertains que je soulevais précédemment.
Et le risque que ça devienne un conflit plus régional, vous qui êtes spécialiste du Moyen-Orient, à combien vous l'évaluez, David Rigoulet-Rose?
Ah, c'est très difficile parce que c'est une situation tellement inédite. Ce qui est sûr, c'est que les pays alentours sont extrêmement, on l'a vu, les pays arabes ont même condamné l'opération militaire parce qu'ils ont peur d'être entraînés dans l'ouragan justement guerrier, en sachant qu'ils sont particulièrement exposés, notamment les pétromonarchies, hein, qui sur la rive occidentale du Golfe, où se situe d'ailleurs un grand nombre de bases. Et donc le vrai sujet, ça va être ça: est-ce que les Iraniens vont être prêts à viser les bases américaines, comme ils l'ont laissé entendre plus ou moins explicitement, ce qui serait un risque majeur de toute façon, parce que la réplique américaine serait massive, mais il y aurait la possibilité en tout cas d'affecter considérablement les économies, la stabilité des pays justement concernés, que ça soit l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït. Et on peut avoir à l'esprit la frappe qui avait eu lieu justement attribuée à Téhéran le 14 septembre 2019, qui avait visé le grand champ de Quraysh en Arabie Saoudite, et qui avait dévasté une partie de l'infrastructure justement de pétrolière, donc qui avait permis à MBS, Mohamed bin Salman, de mesurer la fragilité de son pays par rapport à une logique militaire.
Alors, dans le camp de Donald Trump, justement, on voit qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent contre une ingérence, entre guillemets, américaine là-dedans, et qui disent que les stocks d'uranium enrichi posent un problème alarmant, mais peut-être pas un danger immédiat. On voit le même genre d'hésitation à l'intérieur de l'Europe. La France, par exemple, qui alerte contre cette guerre d'Israël avec l'Iran. L'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie qui ont d'autres positions. Est-ce que chacun va essayer finalement de tirer son épingle du jeu, ou l'Europe va-t-elle trouver une position commune là-dessus?
En réalité, il y a une position commune des Européens. Elle a été assez marquée d'ailleurs. Il y a eu une forme de consensus sur le droit à Israël de lancer une opération pour assurer sa sécurité vitale, avec des formulations qui étaient en fait assez claires. Tout simplement parce qu'il y a une grande inquiétude des Européens sur les progrès de l'enrichissement iranien et sur sa capacité balistique. Certains missiles sont susceptibles de toucher en fait les pays de l'Europe méditerranéenne. Donc il y a eu une inquiétude. Simplement l'inquiétude, elle est aussi sur un élargissement incontrôlé du conflit, une crise pétrolière, une crise sur le marché pétrolier, une crise économique. Donc, mais en réalité, il y a quand même un consensus. Alors, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est la fracture qui est en train de s'opérer dans le camp MAGA aux États-Unis, parce qu'effectivement, vous évoquiez des débats assez violents, hein, d'ailleurs, entre certains. Certains commentateurs de chaînes qui ont soutenu le mouvement MAGA et d'autres. D'ailleurs, dans l'administration, cette fracture, elle a joué, puisque c'est ce qui avait, dans un premier temps, légitimé pour le président Trump la mise de côté de Mike Waltz, son principal conseiller à la sécurité nationale, qui était partisan justement de l'option militaire et qui avait très avancé dans le projet avec les Israéliens, ce qui avait contrarié évidemment la dynamique de négociation voulue par Trump et menée par Steve Witkoff. Mais on voit bien qu'il y a des tensions, notamment avec les évangélistes qui sont un soutien évidemment déclaré d'Israël à travers l'ambassadeur américain Mike Huckabee qui est en place justement à Jérusalem, mais il y a d'autres membres du camp MAGA qui sont contre l'interventionnisme. Donc là il y a une contradiction effectivement qui est en train d'être tranchée, qui risque de laisser des traces dans la gouvernance trumpienne aux États-Unis.
Merci beaucoup à David Grigoulet-Rose d'avoir été avec nous ce matin, chercheur et spécialiste du Moyen-Orient. Bonne journée à vous, à très vite.
Merci, enfin.
Merci infiniment à David Rigoulet-Rose pour rappel, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique publiée aux éditions Lamartine.